Dr. Roderick C. Meredith. L'importance d'avoir la bonne forme de gouvernement. Quelle semaine celle que nous venons de vivre! J'ai demandé à mes principaux collaborateurs de se joindre à moi dans notre salle de conférence pour suivre la cérémonie d'inauguration du président Trump. Nous avons là un écran géant qui nous permet d'acquérir une vision particulièrement dramatique de l'événement. Voilà un événement historique de première importance, et le fait de pouvoir ainsi en suivre tous les détails à l'écran fut pour nous tous une grande source d'inspiration. Le président Trump n'a pas manqué, bien sûr, de s'en prendre à tous ceux qui le critiquent, ici comme partout ailleurs dans le monde. Et le message percutant qu'il a adressé à ses opposants a sûrement dû provoquer la colère chez nombre d'entre eux. Dans celui-ci, il a clairement défini ses objectifs, à savoir son intention d'épurer les différentes instances gouvernementales et d'assainir le milieu de ce qu'il juge inapproprié. Tout cela est évidemment louable. Il n'est pas le Messie, bien sûr, mais il cherche à faire de son mieux, et nous devrions donc tous prier pour lui, comme la Bible nous demande de le faire d'ailleurs. Oui, elle nous demande effectivement de prier pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Voyons-le dans 1 Timothée chapitre 2, où Paul nous y exhorte. 1 Timothée chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Notez qu'il n'est pas dit de prier pour qu'ils acquièrent une grande notoriété et un grand prestige. Non, prions plutôt pour qu'ils puissent maintenir l'ordre et la paix, afin que nous puissions continuer à servir notre Dieu. Je pense que Dieu est intervenu dans ces élections pour mettre un frein à ces tendances qui commençaient à s'imposer à notre société, ces mouvements en faveur des transgenres, des travestis et toutes ces autres déviations qui sont apparues dernièrement. Je sais par ailleurs que l'autre candidat à la présidence n'aurait pas eu une attitude trop positive envers la religion, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne Donald Trump. En effet, Donald Trump a un gendre qui est connu pour être un juif orthodoxe pratiquant. Quant à sa propre fille, elle a d'elle-même décidé de se convertir au judaïsme orthodoxe. Pour ce qui est de Mike Pence, son vice-président, il est un bel exemple de chrétien évangélique équilibré, originaire de l'État d'Indiana. Il en avait été le gouverneur et s'était farouchement opposé à l'avortement et à quantité d'autres folies que la gauche libérale cherchait alors à faire passer. Le président Trump aura sous peu un autre collaborateur, le Dr. Carson, un adventiste du septième jour, qui s'ajoutera aux membres de son cabinet. Ainsi, le président Trump aura su s'entourer d'une bonne équipe de travail et nous devons prier pour que Dieu se serve de lui tant qu'il sera de sa volonté de le faire, afin de maintenir la paix au sein de la nation, de sorte que nous, de même que les autres serviteurs de Dieu, puissions proclamer ses messages à un monde qui est assurément bien malade. Grâce à son élection, il nous sera peut-être donné de poursuivre notre mission durant quelques années additionnelles. Si nous demandons à Dieu de nous guider en cela, je suis persuadé qu'il le fera. Nous savons à quel point son intervention est rendue nécessaire et à quel point le monde a besoin de l'établissement de son royaume ici-bas. Cela dit, même si nous avons assisté hier à une belle manifestation de patriotisme, avec ses drapeaux flottant au vent, les sons de la fanfare et tout le caractère solennel du serment d'allégeance, il n'en reste pas moins que, dans quelques années, nous assisterons à une inauguration autrement plus spectaculaire. Et c'est sur elle qu'il nous faut nous concentrer. Tournons-nous à présent vers Apocalypse, le chapitre 11. Au verset 13, il est question de ces grands événements par lesquels Dieu va secouer les nations. Apocalypse 11, verset 13. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. Oui, le troisième malheur va venir. Il correspond à la septième trompette, laquelle sonnera juste avant le retour de Christ. Verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Entre parenthèses, ici, le monde sous-entend bien sûr des pays comme les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon, la Russie et la Chine. Oui, aucun de ces pays n'échappera. Christ exercera son autorité sur tous ces pays. Oh, il est possible qu'au début, il y ait quelques manifestations pour défier son autorité, un peu comme ce que nous avons observé récemment lors de l'investiture du président Trump. Après tout, la Bible ne dit-elle pas que les armées du monde s'assembleront pour le combattre à son retour? Cela est mentionné dans Apocalypse 17, verset 14. Franchement, ce sera une époque terrible, et Christ se verra forcé d'écraser cette rébellion. Il viendra sur les nuées du ciel, nanti de plein pouvoir, entouré de légions d'anges et au milieu d'éclairs et de tonnerres. Quant à nous, si nous restons fidèles, nous serons alors élevés dans les airs pour aller à sa rencontre. Ce sera une époque fantastique. Efforçons-nous donc de toujours conserver cette vision présente à l'esprit et préparons-nous activement pour cet événement. Je le sais, beaucoup d'entre nous avancent en âge, et moi le premier. J'espère que les jeunes qui sont parmi nous le prennent à cœur, eux aussi. Vous savez, il est possible que la fin soit plus proche que beaucoup ne se l'imaginent, et le président Trump n'y sera pas pour grand-chose. Oh, il n'est pas exclu que sa nomination ait pour effet de précipiter les choses. Ainsi, même si, au début, sa façon de procéder pourrait conduire à une amélioration temporaire, il est tout aussi possible que son comportement puisse hâter le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Qui sait? Tout cela est entre les mains de Dieu. Nous vivons vraiment une époque passionnante. Frères et sœurs, ce concept de gouvernement divin est d'une importance vitale. Le gouvernement de Christ va s'implanter sur la terre. Ce sera un système de gouvernement tout ce qu'il y a de plus réel. Il sera basé sur des lois, des préceptes, des ordonnances et des jugements. Il nous faut nous pénétrer de tout cela, afin de nous familiariser avec la façon dont Dieu pense. Dans Matthieu 4, verset 4, de même que dans Luc 4, verset 4, il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela implique évidemment qu'on lise et qu'on étudie la Bible, car c'est dans ces pages que nous est révélé l'Esprit de Dieu, comment Dieu pense, comment Dieu va agir et ce qui le caractérise. Comprenez bien l'importance que Dieu attribue à la bonne forme de gouvernement. Ce n'est pas là un point qui ne fait que nous différencier légèrement de ces autres groupes qui se font passer pour une Église de Dieu. Non, c'est là une différence essentielle, une différence fondamentale. Comme M. Herbert Armstrong avait coutume de dire, « Tout réside dans la forme de gouvernement qu'on adopte. Cela va déterminer ce que nous prêcherons, ce qui fera l'objet de nos prières, à quoi serviront nos dîmes et nos offrandes, en quoi consistera notre prédication de l'Évangile, la bonne nouvelle au sujet du royaume de Dieu, du gouvernement de Dieu. » Oui, notre forme de gouvernement affectera tout cela. Ne considérez pas le mot « gouvernement » comme étant un terme péjoratif. Comme vous le savez, les Britanniques se querellent à propos du Brexit. Les Américains, quant à eux, manifestent suite à l'élection du président Trump. Ailleurs dans le monde, le mécontentement gronde pareillement. Les Français parlent eux aussi de quitter l'Union. La banqueroute menace les Italiens. En Chine, les régions reculées se plaignent qu'elles sont privées de leur juste part à l'enrichissement collectif. Partout dans le monde, on assiste au renversement de gouvernement et, de fait, beaucoup de politiciens ont été contraints de démissionner pour avoir été impliqués dans des scandales de corruption. Ceci est particulièrement le cas en Amérique latine. Dieu va devoir mettre un terme à cela. Encore une fois, c'est une question d'avoir la bonne forme de gouvernement. En venant, Christ établira un gouvernement parfait. Préparez-vous à assumer les responsabilités dans un tel gouvernement. Laissez-le vous préparer pour cela. Quand Dieu décida d'établir un gouvernement humain sur la terre, il nous a brossé les grandes lignes de ce qui devait en constituer les bases. Je vais brièvement vous en donner un aperçu, mais il faudra aussi me réserver du temps pour vous donner le reste de mon message. Nous avons déjà abordé ces points dans le passé, mais revenons-y. Voyons Exode, le chapitre 18, où Dieu commença à implanter la forme de gouvernement qu'il destinait au peuple qui s'était choisi. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que c'est dans 1 Corinthiens 10, verset 4, qu'on apprend que celui qui apparut plus tard en la personne de Christ était nul autre que le Dieu d'Israël, le rocher d'Israël. C'est lui qui parla à Adam dans le jardin d'Éden, lui qui parla à Abraham, lui qui parla à Moïse, à qui il remit les 10 commandements. Ce n'est donc pas Dieu le Père qui se manifesta à eux en ces temps-là. Par ailleurs, lorsque la nation sortit d'Égypte, c'est encore lui qui les conduisit dans le désert, tout en leur communiquant ses directives. Dans Exode chapitre 18, on le voit donner à Moïse sa forme de gouvernement, et cela par le biais de son beau-père Jéthro. Ce dernier était venu à sa rencontre, et il avait assisté aux procédures que suivait Moïse pour juger le peuple. Verset 13. Il lui avait alors fortement suggéré de changer de pratique. Et c'est ce que nous lisons au verset suivant. Moïse jugeait le peuple et lui enseignait les lois de Dieu. Vous savez bien sûr ce que les lois de Dieu impliquent. Il s'agit essentiellement des lois civiles fondamentales qui régissaient le pays à cette époque-là. Elles étaient conformes à l'Esprit de Dieu et reflétaient des principes spirituels basés sur les 10 commandements. De nos jours, on n'observe plus toutes ces lois à la lettre. Mais retenez qu'il nous faut tout de même continuer à les observer selon l'Esprit. Certaines d'entre elles continuent cependant d'être même observées à la lettre. Toutes ces lois nous montrent comment Dieu se comportait à l'égard d'un peuple charnel dans les différentes situations auxquels ils pouvaient être confrontés à cette époque-là. Ainsi, Moïse leur enseignait les lois de Dieu, et ils se tenaient occupés du matin au soir à juger le peuple. Voyant cela, Jéthro dit à Moïse, verset 17, « Ce que tu fais là n'est pas bien. » Verset 18, « Tu t'épuiseras toi-même, et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. » Puis au verset 20, il lui conseille de se limiter à leur enseigner les lois et les ordonnances, ajoutant au verset 21, « de choisir parmi le peuple des hommes capables pour l'épauler dans sa tâche. » Notez bien qu'ils n'ont pas alors formé un comité de sélection, et on ne voit nulle part qu'ils votèrent alors pour tel ou tel candidat. Lisons l'ensemble du verset 21. Exode 18, verset 21. « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. » Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Quand il est question d'établir quelqu'un sur un groupe de 10, il faut bien comprendre que chacun de ces 10 avait généralement une famille. Or, à cette époque-là, les familles comportaient beaucoup d'enfants. Ainsi, un chef de 10 pouvait fort bien être responsable de 30, voire de 50 personnes, ou même plus. Moïse avait donc suivi les conseils de Jéthro, lesquels avaient sans nul doute été inspirés de Dieu. C'est donc à cette occasion-là que, pour la première fois, le Dieu de l'Ancien Testament institua sa forme de gouvernement pour la nation qu'il s'était choisie. C'était une structure pyramidale. Plus loin, dans le 19e chapitre d'Exode, on voit Dieu qui manifeste sa puissance par des tremblements de terre, accompagné d'éclairs et de tonnerres. Après cela, il annonce au peuple le contenu des 10 commandements que vous connaissez, les enjoignant de les observer. Au chapitre 21, 22 et 23, il élabore sur ces commandements, en leur donnant ses ordonnances et ses lois. Lisez ces chapitres. Cela vous permettra de mieux comprendre l'Esprit de Christ. Certes, tout cela aurait dû grandement profiter à la nation, à l'ancien Israël. Mais nous n'ignorons pas ce que l'histoire nous rapporte à leur sujet. Ils ont échoué lamentablement, sans arrêt, et cela en dépit de tous les miracles dont ils furent témoins. Ils ne pouvaient tout simplement pas se résoudre à faire confiance en un Dieu invisible. Aujourd'hui encore, nous avons des gens qui se déclarent membres de l'Église, qui disent faire partie de l'Israël spirituel, et pourtant, ils se montrent incapables de mettre leur confiance en ce même Dieu invisible pour qu'il dirige son Église. Nous qui faisons partie de l'Église du Dieu vivant devrions faire mieux. Oui, croyant qu'il existe un Dieu véritable et qu'il est capable de guider son Église. Dieu veut que nous apprenions à mettre notre foi en lui, qui est invisible, et en Jésus-Christ, son exécutif et le chef vivant de l'Église. Ainsi donc, les Israélites d'antan lui devinrent infidèles. Ils voulurent s'affranchir de leur tutelle, et ils se mirent à suivre les coutumes des nations qui les entouraient. La même chose s'observe aujourd'hui. Il y en a parmi nous qui voudraient voter, qui voudraient former des comités pour se pencher sur tel et tel problème, étant entendu que si un tel comité décidait telle ou telle chose, qu'alors l'Église devrait s'y conformer sans mot dire. Cela est-il en accord avec la voie divine? Non, cela ne l'a jamais été. Vous ne pourrez trouver aucun exemple biblique pour affirmer une telle chose. Oh, je sais, certains dans ces autres églises de Dieu ont tenté de trouver des preuves à l'appui de ces idées, mais c'est du temps perdu, il n'y en a pas. C'est ce que 1 Samuel 8 indique à propos de l'attitude montrée par l'ancien Israël. Après un certain temps, ils se mirent à critiquer l'un des plus éminents serviteurs de Dieu de tous les temps. À cette époque-là, c'est Samuel qui administrait le gouvernement de Dieu et il était avancé en âge. Le peuple se mit à s'éloigner de lui, pas uniquement à cause de son âge, mais surtout parce qu'il avait commencé à déléguer une partie de ses responsabilités à ses fils. Or, ses fils se tournaient vers les coutumes païennes et commettaient toutes sortes d'actes répréhensibles. Lisons à ce propos 1 Samuel 8, verset 1. 1 Samuel 8, verset 1. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Pour ma part, je n'ai pas établi mes fils dans les postes d'autorité de l'Église. Mon fils Jim ne fait même pas partie du conseil des anciens et il ne siège sur aucun autre comité. De fait, il n'est qu'un ancien local. Je suis cependant bien content qu'il le soit. Je crois qu'en ce moment même, il prêche dans une des églises de la Caroline du Sud. Ainsi, Samuel avait établi ses fils en tant que juges. Hélas, verset 3, les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils avaient donc organisé une marche de protestation. Est-ce là une chose que Dieu approuve? Non, pas du tout. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous apprenions, nous, son peuple, à mettre notre confiance en lui, car il est parfaitement capable de régler les problèmes. Bien sûr, si la situation devait dégénérer en apostasie, alors il nous faudrait quitter, car l'Église ne serait plus. Assurons-nous de bien faire partie de la véritable Église. La véritable Église de Dieu se démarquera par le fait qu'elle s'efforcera toujours de prêcher le véritable Évangile de Dieu de son mieux. Pas parfaitement, j'en conviens, mais le mieux possible. Une deuxième caractéristique de la véritable Église, c'est qu'elle sera zélée pour accomplir l'œuvre de Dieu. Je pense que c'est ce que nous faisons. En effet, comme vous le savez, nous consacrons une grande partie de notre budget à cela, et nous sommes très présents sur quantité de stations de télévision, sans compter nos activités sur la toile, ainsi que diverses plateformes sociales, telles que Facebook, YouTube, et j'en passe. Et ce n'est pas tellement par le nombre que nous l'emportons, mais surtout, en toute modestie, par la qualité de nos productions. Un troisième point qui caractérisera la véritable Église, c'est d'avoir la bonne forme de gouvernement. Vous savez, aux yeux de Dieu, ce sera là un atout majeur. Et à ma connaissance, nous sommes les seuls à pouvoir le prétendre. Certes, il y a bien quelques groupes issus de notre ancienne affiliation, mais ils ont des dictateurs à leur tête. Je les connais pour leur avoir enseigné jadis. Figurez-vous qu'ils se sont mis dans la tête qu'ils méritaient le titre d'apôtre. Les voilà donc qui se considèrent supérieurs à moi. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas Dieu qui les a établis à ce poste. Lorsque vous consulterez la deuxième épître aux Corinthiens, vous découvrirez les fruits qui accompagnent un apostolat. Ces hommes n'ont pas de miracle à leur actif. De plus, ils se montrent intransigeants et très durs envers leurs membres, n'hésitant pas à les expulser à la moindre occasion. Nous n'agissons pas ainsi. À l'autre extrême, vous avez ces groupes qui insistent pour voter. Ils ont aussi une multitude de comités pour décider de ce qu'ils veulent faire. Et ils se livrent à des manœuvres politiques. Cela, Dieu ne l'approuve pas non plus. Dans l'Église du Dieu vivant, nous adoptons la voie du juste milieu. Certains d'entre vous qui êtes nouveaux dans la foi, vous allez peut-être penser que je prêche, comme je le fais, afin de m'attirer des avantages. S'il est vrai que je suis l'évangéliste en charge de cette Église, Je suis tout de même très conscient du fait que dans 6 mois, au mieux 18 mois, je ne serai probablement plus de ce monde. Je ne dis pas cela pour me gagner votre sympathie, mais c'est un fait. Ma vue a beaucoup baissé, je n'entends plus bien, et mes forces m'abandonnent de plus en plus. Récemment, Dieu m'a fait comprendre qu'il serait temps de faire venir M. Weston, ainsi que d'autres, pour qu'ils aient la possibilité de préparer la relève. Vous voyez, je ne cherche pas mon avantage, mais le vôtre. En vous prêchant la parole de Dieu comme je le fais, je m'efforce de faciliter votre entrée dans le royaume de Dieu, et cela pour l'éternité. Quand nous parlons de l'évangile du royaume de Dieu, cela nous amène automatiquement à parler du gouvernement de Dieu. On se demande alors ce qui caractérisera ce gouvernement. Eh bien, tout d'abord, ce sera un gouvernement dont Dieu sera en charge. Un gouvernement dont le Christ vivant assumera la direction. Et les gens devront mettre leur confiance en lui. Revenons à 1 Samuel chapitre 8 et plus précisément au verset 4. Le peuple avait cessé de placer sa confiance dans le gouvernement de Dieu, même si Samuel avait pourtant fait de grandes choses pour eux, les ayant maintes fois ramenés victorieux de toutes ces batailles dans lesquelles leurs ennemis les avaient entraînés. Au verset 5, on les voit qui réclament à présent qu'un roi les juge. Puis au verset 6, 1 Samuel 8, verset 6, Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger » et Samuel pria l'Éternel. Samuel ne s'est donc pas emporté, simplement il consulta Dieu pour savoir ce qu'il en pensait. Verset 7. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. » Cela me rappelle Adam et Ève, qui avaient rejeté la voix de Dieu dès le début. Pensez à ces deux arbres, auxquels M. Armstrong faisait souvent allusion. Eh bien, ici, nous assistons pour la deuxième fois à un refus d'adopter le gouvernement de Dieu. Cette fois, c'est le peuple choisi qui se rebelle, qui dit ne plus pouvoir mettre sa confiance en Samuel, le serviteur de Dieu, qui avait été placé en charge du gouvernement de Dieu parmi eux. Cela revenait à dire, nous ne pouvons plus avoir confiance que Christ va te guider dorénavant. C'est pourquoi nous réclamons un gouvernement humain, qu'un roi règne sur nous et qu'il se repose sur des armées, qu'il y ait des parades militaires qui fassent étalage de notre puissance. Nous voulons voir du concret et placer notre confiance sur ce qui est tangible. Poursuivons verset 7. Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Puis au début du verset 9, Dieu ajoute, écoute donc leur voix. Alors Samuel fit ainsi. Et la nation allait dès lors se trouver impliquée dans de plus en plus de guerres et dans des conflits de toutes sortes. Cela n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Mais c'est là le fruit qu'on récolte lorsqu'on se détourne du gouvernement de Dieu. Tournons-nous maintenant vers 2 Chroniques chapitre 19, où l'on voit Dieu intervenir dans la vie de Josaphat, un bon roi qui régnait alors sur Juda. Au verset 2, le prophète Jéhu le confronte à certaines de ses erreurs, mais ajoute qu'il avait aussi de bonnes choses à son actif, notamment qu'il s'était efforcé de rechercher Dieu. 2 Chroniques 19, verset 4. Josaphat resta à Jérusalem. Puis il fit encore une tournée parmi le peuple, depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm. Et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils avaient en effet commencé à se détourner de lui. Verset 5. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Notez qu'il nomma des juges. On n'a pas procédé à un vote. Et il dit aux juges, « Prenez garde à ce que vous ferez. » Car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Si cette promesse a été faite à des rois charnels de l'ancien Israël, à combien plus forte raison peut-on s'attendre à ce que Dieu soit proche de ses ministres actuels qui ont le Saint-Esprit? Verset 7. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présents. Et, de fait, les véritables ministres de Dieu ne se rendront pas coupables de pareils méfaits. Depuis 67 ans que je suis dans l'Église, on a très rarement eu à intervenir pour mettre un terme à de tels méfaits. Je ne suis au courant que d'un cas ou deux où cela se serait produit, et les ministres impliqués furent rapidement démis de leurs fonctions. Nous nous efforçons toujours de garder l'Église pure, à commencer par le ministère. Rendons-nous à présent dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 6. Là, au verset 12, on voit Jésus qui est sur le point de prendre d'importantes décisions. Allait-il former un comité pour décider de ce qui allait devoir être fait? Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. De quoi était-il question dans ses prières? Sans nul doute, il avait dû se confier à son Père et lui dire « Je te prie de me guider et de m'accorder de la sagesse, car comment pourrais-je aboutir à une bonne décision sans ton aide, moi qui suis présentement dans cette chair qui me limite ?» Voilà une attitude qui plaît à Dieu. Christ pria ainsi toute la nuit. Verset 13. « Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. » Voilà l'exemple que Christ nous donne. Notez qu'il n'a pas fait appel à un comité pour nommer ses apôtres, et il n'a pas non plus procédé à un vote. Voyons aussi ce qui est dit dans Actes chapitre 14. Au verset 19, on apprend que Paul avait été lapidé à Lystre. On le croyait mort, et c'est pourquoi il fut traîné hors de la ville pour être abandonné. Mais Dieu ranima Paul, qui se remit aussitôt à évangéliser les gens de la ville voisine de Derbe. Après cela, il revint à Lystre, à Icône et à Antioche pour y fortifier l'esprit des disciples. Au verset 23, on apprend « Ils désignèrent des anciens dans chaque ville et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Notez encore une fois qu'ils furent désignés. Paul n'était pas parfait, Barnabas non plus d'ailleurs, mais ils étaient serviteurs de Dieu et c'est pourquoi Dieu les appuyait dans leur démarche. C'est ainsi que Dieu procède. Il nomme quelqu'un à un poste, et c'est en inspirant ses serviteurs qu'il le fait. Veuillez maintenant vous reporter à Tite, le chapitre 1. Là, au verset 4, Paul le présente comme son enfant dans le Seigneur. Au verset 5, il ajoute « Je t'ai laissé en Crète, une île en mer Méditerranée, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Notez que Tite doit établir ou nommer des anciens selon les instructions que lui donne Paul. Ce n'est donc pas un comité qui en a décidé ainsi. Paul informe ensuite des conditions auxquelles doivent satisfaire ces personnes. Ainsi, un ancien doit être dévoué, attaché à la vérité, avoir une femme qui le soutienne, ainsi que des enfants fidèles. Les versets 7 et 8 ajoutent « Car il faut que l'évêque soit irréprochable, pas parfait, mais irréprochable. » Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, donc pas d'alcoolique dans le ministère, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Dans le passé, nous avons ordonné des anciens qui voulaient se faire remarquer en prêchant de nouvelles doctrines. Cela est inacceptable. Il faut qu'un ministre s'en tienne à ce que l'Église enseigne. Continuons au verset 9. « Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. » Un ancien doit posséder une forte personnalité pour être capable de convaincre ceux qui voudraient causer des divisions dans l'Église. En émettant de telles conditions, Dieu montrait à ses serviteurs sur quels critères se baser lorsqu'ils auraient à nommer un nouveau ministre. La Bible nous donne en exemple les décisions prises par des serviteurs de Dieu tels que Paul, Barnabas, Timothée et Tite. On les voit qui, sous l'inspiration divine, établissent des anciens dans les différentes églises locales placées sous leur juridiction. Allons maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 5, où nous débuterons au verset 1. Il s'agit d'un passage qui nous est très familier et auquel on va souvent se référer, car il est si important. Ici, l'apôtre Paul nous décrit avec force détail comment l'Église de Dieu doit être structurée et comment elle doit opérer. Dans ce cas particulier, un membre s'était rendu coupable de débauche. 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, verset 3, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Paul était-il en droit de juger cette personne et de prendre une décision à son sujet? Oui, et il ne se sentait nullement contraint de devoir soumettre sa décision à un comité ou de faire prendre un vote avant qu'elle ne puisse devenir effective. Verset 4. « Au nom du Seigneur Jésus, Vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Dieu pourrait le frapper, comme il le fait parfois lorsqu'une personne se fait exclure. Et cela peut être bénéfique pour cette personne, si elle en profite pour réfléchir et tirer une leçon des actes qu'elle a commis. Continuons. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Puis au verset 7, il enchaîne en disant « Faites disparaître le vieux levain ». Ici, Paul ordonne que le gouvernement de l'Église entre en action et applique la sentence qui a été prononcée. Évidemment, le gouvernement de l'Église a aussi d'autres fonctions, comme celle qui consiste à structurer l'Église, afin de lui permettre d'exercer l'œuvre en favorisant le travail d'équipe. Il serait bon de mettre ce point en valeur, car cela permet aux intervenants de consolider la famille de Dieu que nous serons amenés à devenir. Cela dit, lorsque des individus essaient de diviser l'Église, celle-ci doit agir. C'est pourquoi Paul insiste ici, disant « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Verset 8 « Célébrons donc la fête. » Ils observaient alors la fête des pains sans levain. « Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Il leur demande donc de ne pas s'associer avec quelqu'un qui, tout en voulant passer pour un frère, se livre simultanément à la fornication ou d'autres méfaits. On voit ici le gouvernement de l'Église en action. Il nous faut apprendre à penser comme Dieu et garder la maison de Dieu exempte de souillure. Débarrassez-vous de ceux qui causent des divisions. Ne tolérez pas des gens qui pourraient attirer la colère de Dieu sur son Église, comme cela s'était produit du temps de l'ancien Israël. Ne cherchez pas à paraître plus juste que Dieu. Donc, épurez l'Église de ce qui pourrait lui nuire ou porter atteinte à sa réputation. C'est l'Église de Dieu, après tout. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 5, verset 13, « Ôtez le méchant du milieu de vous. » Puis au chapitre suivant, le chapitre 6, Paul poursuit en disant, 1 Corinthiens 6, verset 1, « L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Oui, qu'est-ce qui vous prend de vouloir soumettre les problèmes qui vous opposent à un frère devant des juges de ce monde? Ce n'est pas agir selon Dieu. » Verset 2, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? » Je le sais, pour certains d'entre vous, cela peut paraître irréaliste. Cependant, n'oublions pas qu'il nous faut apprendre à exercer le gouvernement de Dieu dès maintenant. Je crois que nous devrions passer plus de temps à enseigner les lois de Dieu, comment elles doivent être appliquées à l'époque du Nouveau Testament, où on se doit de les observer selon l'esprit, et non pas seulement selon la lettre. Pour vous préparer à exercer votre futur rôle de juge, pénétrez-vous dès maintenant de l'Esprit de Dieu. Continuons, verset 3. « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Vous et moi, si nous nous qualifions pour le royaume de Dieu, et j'espère et je souhaite que ce sera le cas pour nous tous, alors attendons-nous à devoir prononcer des sentences sur telle ou telle dispute qui pourrait éclater entre certains anges? Nous en serons alors capables, car, étant devenus des fils de Dieu à part entière, nous aurons toute connaissance et serons doués d'une parfaite impartialité. Il nous faut nous entraîner pour cela dès maintenant. » Verset 4. « Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont donc des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges? Oui, pourquoi aller plaider votre cause devant des juges de ce monde qui ne craignent pas Dieu et qui ne connaissent même pas ses lois? » Verset 5. « Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Comprenons donc que Dieu n'approuve pas du tout le comportement de certains dans l'Église, qui vont s'en remettre à des magistrats de ce monde pour obtenir gain de cause dans une dispute qu'ils auront avec un frère. » J'aimerais à présent parler de l'administration de l'Église et plus particulièrement des rapports qui doivent exister entre le quartier général de l'Église et ses différentes branches internationales. Pourquoi n'accordons-nous pas une parfaite autonomie à celles-ci? Nous avons en effet des directeurs régionaux pour chacune d'elles. Ainsi, il y a M. Rob Tyler, en charge de l'Australasie, M. Adam West, qui fait du très bon travail en Europe. En fait, son territoire comprend le Royaume-Uni, le continent européen et même le Moyen-Orient. N'oublions pas non plus M. Hernandez, qui coordonne, entre autres, l'œuvre hispanique. Mais ces hommes ne sont pas nantis des pleins pouvoirs pour faire ce que bon leur semble. Pourquoi cela? Je voudrais maintenant élaborer un peu sur ce sujet et vous expliquer le point de vue de Dieu en la matière. Après tout, ne nous faut-il pas développer l'Esprit de Dieu? Considérons aussi comment Dieu a agi au cours des années par l'intermédiaire de M. Armstrong et de ceux qui poursuivent son œuvre à l'heure actuelle. Voyons pour cela Galates, le chapitre 2, où Paul nous informe que c'est Dieu lui-même qui l'avait choisi et mis à part pour un ministère particulier. Galates 2, verset 1. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Oui, Dieu lui avait demandé, pour la forme, de se rendre à Jérusalem pour se présenter devant le quartier général de l'Église afin de les informer de ce qu'il accomplissait. Verset 3. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Cela fut inspiré et donc approuvé de Dieu, en dépit de l'opposition manifestée par certains éléments juifs de l'Église. Verset 4. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Verset 6. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas, Dieu ne fait point de favoritisme, ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Paul était conscient du fait qu'il était assez nouveau dans l'Église et dans le ministère, et sans vouloir passer pour irrespectueux envers les apôtres en place à Jérusalem, il sentait que certains éléments juifs avaient à leur égard une bien trop haute opinion, et cela l'irritait quelque peu. Parlons maintenant de M. Weston. Nous savons tous que M. Herbert Armstrong, qui débuta cette phase de l'œuvre en son temps, avait plus de capacité que n'importe lequel d'entre nous, et cela inclut M. Weston ainsi que moi-même. Nous le reconnaissons et voulons lui rendre l'hommage qui lui est dû, bien que cela ne doive pas être considéré comme un acte d'adoration. À présent que M. Weston est en charge de l'œuvre, certains vont peut-être penser « Je suis dans l'Église depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce que M. Weston pourrait bien m'apprendre ?» Eh bien, sachez tout d'abord que M. Weston est membre de l'Église depuis plus de 51 ans et que, durant toutes ces années, il n'a cessé de se montrer fidèle et dévoué. Christ m'a inspiré de le mettre en charge à ma place, et je l'ai donc établi dans ce poste en me conformant au gouvernement que Dieu a placé dans son Église. Le voici donc désigné pour être notre prochain dirigeant humain. Poursuivons. Galates 2, verset 7. Au contraire, voyant que l'Église m'avait été confiée pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Tout le monde le savait, les fruits étaient apparents, Dieu avait choisi Pierre pour aller vers les Juifs. Ainsi, c'est Pierre qui avait été choisi pour donner ce premier sermon le jour de la Pentecôte de l'an 31 de notre ère. Pierre encore, qui avait opéré les premières guérisons, au point que son nombre passant sur les malades suffisait pour qu'ils soient guéris, ainsi que cela est mentionné dans Actes 5, verset 15. D'ailleurs, partout dans le Nouveau Testament, quand les trois piliers de l'Église sont mentionnés, le nom de Pierre vient toujours en premier. Pierre, Jacques, pas le frère de Jésus, qui n'était pas encore converti au début. Pierre, Jacques, puis Jean, son frère. Il était donc évident pour tous que Dieu avait établi Pierre sur les Juifs. Il était l'apôtre des circoncis. De même, selon les dires de Paul, Dieu l'avait choisi pour être l'apôtre des gentils, des non-juifs, des païens si vous voulez. Qui a établi M. Armstrong en tant qu'apôtre? car c'est bien là le titre qui apparaît sur l'un des documents qui font état de son ordination. Il est vrai que ceux qui l'avaient élevé à ce rang à l'époque ne comprenaient pas vraiment la signification de ce terme, et c'est pourquoi ils considéraient qu'un ancien était automatiquement un apôtre. De fait, ce n'est qu'en 1952, à la fête des tabernacles qui s'est tenue à Sigler Springs, dans l'État d'Oregon, que M. Armstrong fut véritablement confirmé dans ce poste. J'étais présent pour l'occasion, et c'est Hermann Hoehn qui s'en est occupé. À l'époque, Hermann Hoehn n'avait pas encore le titre de docteur qu'il reçut par la suite. Dans l'allocution qu'il avait tenue, il avait dit « Aux yeux de certains, M. Armstrong passe pour un prophète, mais je vous le dis, il n'est pas un prophète. » Je jetai alors un regard vers M. Armstrong, sachant qu'il avait toujours eu à cœur de faire respecter son autorité. Et il est vrai que plusieurs avaient tenté d'usurper sa position. Je le sentais sur la défensive et prêt à intervenir. Mais Hermann Hoehn ne lui en laissa pas le temps, car il ajouta aussitôt « Monsieur Armstrong n'est pas un prophète, mais un apôtre. » Puis il se mit à expliquer pourquoi il avait dit cela. Hermann Hoehn, qui était alors considéré comme une sorte de gourou dans l'Église, se mit donc à justifier sa pensée. Dieu n'avait-il pas utilisé cet homme pour lancer cette nouvelle phase de l'Église? Sous la férule de M. Armstrong, l'Église n'avait-elle pas déjà un impact qui surpassait tout ce qu'elle avait connu depuis des siècles? De plus, M. Armstrong n'avait-il pas formé et établi quantité de ministres pour le seconder? Enfin, n'avait-il pas beaucoup de guérisons à son actif? Je puis attester de cela, car j'étais présent lorsque celles-ci eurent lieu. En vertu de tout cela, Hermann Hoehn déclara donc que M. Armstrong méritait le qualificatif d'apôtre, car il en avait produit les fruits. Frères et sœurs, assurément M. Armstrong n'était pas imbu de sa propre importance, car après avoir entendu tout cela, il se contenta de dire qu'il n'était pas sûr de mériter ce titre, mais qu'il étudierait la chose pour voir s'il y avait lieu de lui donner suite. Eh bien, après avoir réfléchi longuement et considéré tous les arguments présentés par Hermann Hoehn, il finit par se laisser convaincre. Quant à moi, on ne peut pas dire que je suis un apôtre, car je ne fais que continuer l'œuvre que Dieu a accomplie par l'intermédiaire de M. Armstrong. Si Dieu veut faire de moi un apôtre avant que je ne meure, il va sûrement me permettre de faire quelques miracles pour que cela soit évident pour tous. J'en doute cependant. Et je ne dis pas cela par fausse modestie. Il est vrai que, à 3 ou 4 reprises dans le passé, M. Armstrong avait eu l'intention de faire de moi un apôtre. D'abord, il avait voulu le faire pour son fils Garneted et moi-même. Je ne pensais pas cependant que c'était là une bonne idée, car j'avais eu vent de certains problèmes personnels chez son fils. Plus tard, il revint à la charge en proposant cette fois les noms de Ted et de Charles Hunting, en plus du mien. Après cela, il essaya une autre fois en citant Charles Hunting, Al Portoon et Raymond McNair. Je lui dis alors que tout cela pouvait causer de la confusion, et il reconnut que ce n'était pas sage, et il fit marche arrière. J'aurais donc pu me faire nommer apôtre à plusieurs reprises, et si j'avais été de la trempe d'un politicien, je le serais à présent. Mais à l'époque, je ne croyais pas que la chose aurait obtenu l'aval de Dieu. De toute façon, apôtre ou pas, j'ai droit à la même fiole d'huile pour faire des onctions. J'ai les mêmes occasions de prêcher et de diriger l'Église. Ne convoitez pas un poste important. Si Dieu veut vous élever à un tel poste, il le fera. Christ est vivant et il est en charge de son Église. Cela fait plus de 67 ans que je suis baptisé et que j'ai pu m'en rendre compte. Nous lisions dans Galates 2, verset 7. Voyant que l'Église m'avait été confiée pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Autrement dit, on avait vu par les fruits que Paul avait produits que Dieu l'utilisait bel et bien en tant qu'apôtre. C'est pourquoi le verset 9 ajoute, Galates 2, verset 9, « Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, cette fois il ne s'agit plus du Jacques du début, car celui-ci avait eu la tête tranchée, mais de l'autre, le frère du Seigneur, qui, suite à sa conversion, était devenu apôtre à son tour et en charge de l'église mère de Jérusalem. Donc, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens, et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Pierre, Jacques et Jean occupaient manifestement une place importante dans l'Église du Nouveau Testament. Notez cependant qu'après cet événement, on n'entend plus tellement parler de Pierre. Comme certains l'ont fait remarquer, Dr. Douglas Winnell en particulier, il semble que Pierre se soit alors mis à voyager à travers l'Europe du Nord-Ouest ainsi que les îles britanniques. Paul aussi s'était mis à voyager, mais surtout dans le bassin méditerranéen. C'était le jeune frère de Christ, Jacques, qui allait dorénavant veiller sur la bonne marche des choses et centraliser les informations. C'était un bon choix, vu qu'il avait eu l'occasion, jadis, de passer des milliers et des milliers d'heures en compagnie de Christ. Une fois converti, il put mettre à profit la précieuse expérience ainsi acquise pour exercer ses fonctions d'apôtre en charge de l'Église mère. Pierre et Paul ne pouvaient pas communiquer avec Jacques instantanément, comme on le ferait de nos jours. On ne pouvait envoyer un email à l'époque. On dépendait alors d'un service de courrier plutôt lent et pas toujours très fiable. C'est pourquoi il fallait bien accorder à ces hommes une totale autonomie pendant qu'ils voyageaient ainsi au loin. On peut alors se demander, pourquoi n'avons-nous pas un homme en charge de l'œuvre au Royaume-Uni et en Europe qui soit lui aussi autonome, alors qu'à l'heure actuelle, il lui faut consulter notre quartier général de Charlotte? C'est parce que aujourd'hui, nous bénéficions de moyens de communication instantanés. Par ailleurs, Adam West, de même que Rob Tyler, sont encore un peu inexpérimentés dans leurs nouvelles fonctions. Et il est donc indiqué qu'ils reçoivent un encadrement pour être plus efficaces et afin d'éviter de faire des erreurs. Pour ma part, Christ se sert de moi depuis 64 ans et demi pour accomplir son œuvre, et 24 ans et demi se sont écoulés depuis la fondation de l'Église du Dieu vivant. Ainsi, ces hommes qui ont été placés à la tête de nos différentes opérations aux quatre coins du monde doivent se rapporter à nous, ici à Charlotte. À présent que M. Weston me remplace de plus en plus, c'est à lui qu'ils vont s'en remettre le plus souvent. Quant à nous, au quartier général, que faisons-nous lorsque des décisions majeures doivent être prises? Nous convoquons une réunion. Cela ne donnera pas lieu à un vote, mais cela nous permettra d'échanger des opinions afin d'en arriver à une bonne décision. Proverbe 11, verset 14, ne dit-il pas, en effet, que le salut est dans le grand nombre des conseillers? Ainsi, lorsque vint le moment de considérer un transfert de l'œuvre vers un autre lieu, je me mis à consulter des douzaines de personnes avant d'arrêter mon choix. J'en discutais notamment avec Mme Pyle, Mme Appartient et ma femme, bien sûr, mais aussi avec beaucoup de nos ministres d'expérience. Après avoir ainsi reçu une multitude de conseils, il me revint de prendre la décision finale. Il n'y a pas eu de vote. C'est Dieu qui guide notre choix. Et c'est ainsi que nous procédons pour toutes les situations importantes qui peuvent se présenter à nous dans nos différentes opérations disséminées aux quatre coins du monde. Notre équipe au quartier général de Charlotte délibère et la décision finale parvient peu après par email à ceux qui s'interrogent. L'expérience a montré que c'est là la meilleure façon, en ces temps modernes, de gérer une œuvre d'envergure mondiale comme la nôtre. Dieu l'avait déjà fait comprendre à M. Armstrong et nous poursuivons avec la même méthode. Cela nous permet d'être unifiés dans l'accomplissement d'une œuvre commune. Voyons à présent Éphésiens le chapitre 1, un passage des Écritures qui est de la plus grande importance, comme je l'ai souvent dit, et j'espère que vous le comprendrez. Ainsi, les Israélites d'antan refusaient de s'en remettre à Dieu pour les diriger. Ils avaient fait comprendre à Samuel qu'ils ne pouvaient plus avoir confiance en lui et que, dorénavant, il leur faudrait décider de leur sort eux-mêmes. Ceci était contraire à la volonté de Dieu, qui leur fit alors savoir, par l'intermédiaire de Samuel, à quoi ils devaient s'attendre en agissant de la sorte. Dieu leur laissait le choix d'obéir ou de se brûler les doigts. Évidemment, ils en firent à leur tête et récoltèrent les fruits de leur désobéissance. Chaque fois qu'ils se rebellaient contre le gouvernement de Dieu, les choses ne cessaient d'empirer, jusqu'à ce que, en fin de compte, la nation se scindât en deux. Il y eut ainsi formation de la maison d'Israël et de la maison de Juda. Plus tard, les deux parties furent emmenées en captivité et réduites à l'esclavage. Hélas, au temps de la fin, le scénario va se répéter, et cela parce que nous nous serons éloignés de Dieu plus que jamais. Le problème, c'est qu'il ne voulait pas avoir foi en Dieu et s'en remettre à celui qui est invisible, Christ, le Dieu d'Israël. Dans Éphésiens chapitre 1, il est question de Dieu le Père qui a déployé sa puissance en Christ. Verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Oui, Christ a bien plus de puissance et d'autorité que le président Trump, le pape, ou qui que ce soit, car il dispose de la gloire de l'univers entier. Continuons, toujours au verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est aussi ce que dit Colossiens, le chapitre 1, à savoir que Christ est la tête de l'Église, qui est son corps. Christ est vivant, et il est actif dans son Église. Comprenez-le bien, frères et sœurs. Sinon, je crains que vous n'entriez pas dans le royaume de Dieu. Croyez que Christ est la tête vivante de l'Église et de l'œuvre, et qu'il va guider ses serviteurs dans les décisions qu'ils auront à prendre. Si vous n'en êtes pas persuadé, vous ne croirez pas non plus qu'il chapeaute les opérations de notre département des finances, l'administration de l'Église, nos publications, nos efforts médiatiques de toutes sortes, télévision, Internet, plateformes sociales, et j'en passe. Oui, il est à la tête de tout cela, bien qu'il opère par l'intermédiaire d'êtres humains. Quand nous rejetons cette forme de gouvernement qui nous est clairement présentée dès Exode chapitre 18 et à plusieurs autres endroits, quand nous refusons de faire confiance à Christ, nous montrons simultanément à Dieu que nous ne voulons pas qu'il laisse à Christ le soin d'administrer son gouvernement. Dieu devra alors secouer vigoureusement ceux qui se comportent ainsi, sinon il ne pourra pas les accepter dans son royaume. Il me faut dire ces choses, car me taire ne serait pas faire preuve d'amour envers ceux qui persistent à penser ainsi. Parlons à présent de notre appel, frères et sœurs. Vous le savez, nous sommes appelés à devenir des rois et des sacrificateurs dans le royaume de Dieu. Reportons-nous à Apocalypse, le chapitre 2. La plupart d'entre nous connaissent ce passage, mais je le mentionne aussi pour les nouveaux parmi nous, et pour que cela soit enregistré. Tout en préparant ce sermon, je me suis mis à penser à toutes ces choses que j'aimerais encore accomplir avant de mourir. Ainsi, j'aimerais finir de rédiger mon autobiographie, de même que cette brochure à propos de la réforme protestante, ainsi que d'autres éléments qui m'apparaissent importants, tels que, justement, une brochure à propos de la notion de gouvernement dans l'Église. Oh, nous en avions une, jadis, mais elle mériterait d'être améliorée. Je crois que ce serait à moi de le faire. Et puis, lorsque je ne serai plus, on ne pourra pas dire que je l'ai écrite pour qu'elle me rapporte, vu que je ne serai plus là pour veiller à ce qu'on applique les directives qui y figurent. Au moins, vous connaîtrez alors la vérité, et la vérité vous affranchira. Oui, la vérité est une source de bénédiction pour le peuple de Dieu, pour l'Église. On pourrait peut-être faire une brochure à partir de ce sermon. Il faudrait y voir. Apocalypse 2, verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Il faut être actif et aller de l'avant si l'on veut croître spirituellement. Quand on voit ces émeutes qui agitent le pays, comme en ce moment à Washington et à New York, et qu'on voit ailleurs dans le monde l'anarchie et les révoltes devenir monnaie courante, on comprend qu'il faudra qu'une main de fer intervienne pour rétablir l'ordre, et ce sera celle de Jésus-Christ. Et il le fera en nous impliquant, du moins si nous nous laissons transformer par lui. Soyez assurés que Christ saura les mater et leur montrer toute sa puissance. Lorsqu'ils seront confrontés à sa puissance surnaturelle, ils se rendront compte que c'est Dieu qu'ils combattaient, et ils vont alors s'assagir. Dans Apocalypse chapitre 5, il est question des prières des saints qui chantent un cantique nouveau qui a manifestement été inspiré par Dieu. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre » il s'agit de Christ « et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux, verset 10, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Notez que c'est sur la terre que nous régnerons, pas au ciel. Voilà à quoi Dieu nous a appelés. Ainsi, certains d'entre nous régneront sur l'Uruguay ou le Paraguay ou encore l'Argentine. D'autres auront à régner sur l'Autriche ou la Hongrie. D'autres encore seront placés au-dessus de l'Allemagne, de la France, de l'Espagne ou des îles britanniques. Il nous faudra savoir comment gouverner des nations comme la Grande-Bretagne, le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou encore les Philippines, la Chine, etc. Bien sûr, nous gouvernerons sous l'autorité de Christ. Tout ceci deviendra réalité. Alors, posons-nous la question. Suis-je prêt pour cela? Suis-je suffisamment imbu de l'Esprit de Christ pour pouvoir gouverner dans le gouvernement de Dieu à venir? Christ, parlant des temps de la fin, nous annonce sans ambiguïté que nous allons, avec lui, gouverner le monde. C'est ce que nous lisons dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37, verset 21. « Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. » Ici, il parle notamment des Anglais et des Américains. « Il ramènera nos peuples au pays d'Israël, en Palestine. » Verset 22, « Je ferai d'eux une seule nation. » En ce moment, il n'en est pas ainsi. Nous sommes divisés, et certains d'entre nous haïssent les Juifs. Continuons. « Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations, et ne seront plus divisés en deux royaumes. » Arrêtons-nous un instant. Qui sera ce roi? On sait que Christ reviendra en tant que roi des rois. Je suis sûr que la plupart d'entre vous savent que ce sera David ressuscité qui régnera sous Christ sur l'ensemble de la nation d'Israël alors réunie. En effet, n'était-ce pas lui, David, qui avait régné sur la nation pendant 40 ans? C'est lui que Dieu avait choisi pour enseigner au peuple ses lois et ses ordonnances. Sous David, la nation avait alors été fortement bénie. Verset 24. « Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. » Oui, il nous faudra apprendre comment appliquer les lois de Dieu, comment régler nos rapports avec notre prochain, comment réglementer la propriété de chacun, etc. Verset 25. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Ainsi, David sera un nouveau roi sur tout Israël. Il gouvernera selon les lois de Dieu, ce qu'il avait déjà fait durant les 40 ans qu'il avait jadis régné sur la nation. Il aura donc de l'expérience. Il aura été formé pour cela. Avec Christ en nous, il nous faudra également nous pénétrer de ses lois et de cette façon de vivre, afin de pouvoir assister le roi David et d'autres dirigeants dans le gouvernement de Dieu. Tournons-nous maintenant vers le psaume 119 que David avait écrit sous l'inspiration divine. Frères et sœurs, après nous avoir demandé de nous reporter à psaume 119, Dr Meredith a de la difficulté pour trouver ce verset. C'est pour ça qu'on va être obligé de faire une petite pause de environ 20 secondes. D'ailleurs, je vous préviens, ça va se répéter peu de temps après. C'est sa vue qui lui crée des problèmes. Psaume 119, verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, la voie qu'il nous enseigne, qui le cherchent de tout leur cœur. Comme je vous l'ai dit à maintes reprises, efforcez-vous de rechercher l'Éternel, C'est là un des principaux signes auxquels on reconnaîtra quelqu'un dont Dieu se sert. A-t-il appris à rechercher Dieu de tout son cœur? Verset 3. Qui ne commette point d'iniquité et qui marche dans ses voies, tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Les jugements étaient des amendes imposées en cas de violation des statuts. Les statuts explicitaient la lettre de la loi. Ils énonçaient les principes selon lesquels on devait aimer son prochain et comment se comporter en bon citoyen. Par conséquent, si nous tenons à savoir comment faire tout cela selon l'Esprit de Christ, il nous faudra étudier sérieusement toutes ces choses et ne pas nous contenter de n'en avoir qu'une connaissance superficielle. C'est ainsi que nous nous préparerons pour nos futurs rôles de roi et de sacrificateur. Il nous faudra approfondir ces statuts de Dieu. Laissez-moi vous en donner un aperçu sommaire, car nous n'aurons pas le temps d'approfondir cela ici. Il faudra y consacrer un autre sermon. Pour commencer, tournons-nous vers le 18e chapitre du Lévitique. J'aimerais vous lire quelques-uns des statuts qui s'y trouvent pour vous rendre familier avec leur teneur, le but étant de vous amener à poursuivre votre recherche par vous-même. Frères et sœurs, tel qu'annoncé précédemment, voici la deuxième zone un peu perturbée du sermon de Dr. Meredith. Le problème, c'est que, à cause de sa vue, il ne s'est pas rendu compte qu'il se trouvait dans le livre de l'Exode et non dans le livre du Lévitique. Et puis, au début, il nous demande de nous référer à Lévitique 19, mais juste après, il se reprend et nous demande de commencer en fait à lire au Lévitique chapitre 18. Au total, la perturbation aura été d'environ 1 minute et 15 secondes. Mais avec mes commentaires, ça paraîtra un petit peu moins long. Lévitique 18, verset 26. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations. Plus loin, dans Lévitique 19, verset 15, il ajoute, Lévitique 19, verset 15, « Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Donc, pas question de favoriser le pauvre, s'il est dans le tort, et de le laisser impuni. Dieu a des normes, et les gens devront s'y conformer, car cela profitera à tous. Il nous faudra bien sûr leur enseigner ces choses. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, tu n'auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Donc, le riche ne devra pas non plus obtenir un jugement de faveur. Verset 16. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Verset 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Allez voir votre frère et dites-le-lui honnêtement s'il vous a offensé. Dieu nous commande d'agir ainsi. Verset 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Voilà qui doit être la règle d'or pour nos relations interpersonnelles. Dieu nous donne ses directives dans sa parole. Aime ton prochain comme toi-même. Verset 19. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fil. Par extension, on en déduit que nous aussi, lorsque nous épouserons quelqu'un, il vaudrait mieux s'assurer qu'on aura des points en commun. Ce n'est pas que l'un sera nécessairement supérieur à l'autre, mais va-t-on accoupler une vache et un cochon? Non, bien sûr. Verset 20. Lorsqu'un homme couchera et aura commerce avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme et qui n'a pas été rachetée ou affranchie, ils seront châtiés, mais non punie de mort parce qu'elle n'a pas été affranchie. Évidemment, l'esclavage était une pratique qui avait cours à cette époque-là, et Dieu la tolérait. N'empêche que, même s'il tolérait la chose, il avait tout de même des lois pour régir les rapports sexuels. Dieu n'est pas gêné de parler de rapports sexuels, mais il tient à ce qu'ils s'inscrivent dans une structure familiale. Verset 21. L'homme amènera pour sa faute à l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, un bélier en sacrifice de culpabilité. Plus loin, au verset 23, il en vient à un autre type de considération. Par exemple, qu'on ne mangera les fruits d'un arbre qu'à partir de la cinquième année. Puis au verset 26, vous ne mangerez rien avec du sang. Dieu sait ce qui nous serait dommageable. Alors, écoutons-le. Verset 27, vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Simple question de bon sens. On ne veut tout de même pas avoir l'air fou. Verset 28, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Un sujet qui va en choquer plusieurs de nos jours. Mais nous, dans l'Église, nous n'agirons pas ainsi, car nous sommes conscients du fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Verset 29. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Ne consultez pas les horoscopes et ne participez pas à des séances de spiritisme. Qui voudrait se mettre en rapport avec des démons? Verset 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Oui, et de même, ayez de la considération pour l'étranger qui sera parmi vous. Verset 33. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même. Oui, si l'étranger est là parmi vous, s'il a été admis, soyez bon envers lui. Bien sûr, s'il transgresse les lois du pays, les autorités se chargeront de lui. Mais vous, ne le maltraitez pas, mais aimez-le comme un être humain. Verset 35. Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Puis en guise de résumé, verset 37. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Dieu nous donne ici des lois civiles qui sont basées sur les principes spirituels des 10 commandements. Toutes ces lois reflètent l'Esprit de Dieu. Elles nous montrent comment Dieu pense à propos de ces choses. Apprenez à vous familiariser avec ces pensées. Vous les trouverez énumérées principalement dans Exode, les chapitres 20 à 24, dans Lévitique, les chapitres 16 à 27, et dans Nombre, les chapitres 18, 19, 27 à 30 et 35 à 36. Enfin, dans Deutéronome, qui en est plein, notamment dans les chapitres 12 à 28. Lisez tous ces passages. Cela vous permettra de vous concentrer sur les statuts de Dieu. Cela importe d'autant plus qu'il nous faudra les enseigner un jour. Oui, un jour, nous serons réellement des rois et des sacrificateurs. Les événements dans le monde ne vont pas tarder à s'accélérer, et bien des choses iront mal. L'impact de l'œuvre ira en grandissant. Je suis sûr que si nous sommes proches de Dieu, si nous l'implorons en ce sens, il nous donnera les fruits du Saint-Esprit qui nous permettront de secouer ce monde plus que nous ne l'avons jamais fait. Préparons-nous donc pour cela. Préparons-nous pour le royaume de Dieu dont l'avènement est réel et très proche. Préparons-nous à exercer nos fonctions de roi et de sacrificateur. Dans son sermon sur la montagne, Jésus avait magnifié la loi. Allons voir cela dans Matthieu 5, verset 17. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Effectivement, il n'est pas venu pour abolir la loi. Il dit au contraire, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Par accomplir, il voulait dire magnifier, comme on le lit dans Ésaïe 42, verset 21, c'est-à-dire en faire une loi grande et magnifique. En effet, plus on considère cette loi, plus plus on médite sur ce qu'elle nous enseigne, et plus on est ébloui par ce qu'elle nous enseigne. C'est d'autant plus vrai que l'on passe de la simple considération de la lettre de la loi pour passer au stade de l'esprit de la loi. C'est ce qui se dégage de la lecture de versets comme les versets 21 et 22, où il est dit qu'il n'est pas seulement interdit de tuer, mais qu'on ne doit même pas haïr son prochain. De même, non seulement il ne faut pas se rendre coupable d'adultère, il n'est même pas permis de regarder une femme avec l'intention de la convoiter. C'est ce qui ressort de la lecture des versets 27 et 28. Il nous faut donc acquérir la maîtrise de nos pensées, afin d'étouffer à la source ce qui pourrait ensuite nous faire pécher dans les faits. Amenons donc nos pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est là le but qu'il nous faut viser. Matthieu 5, verset 18. « Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, et je suis persuadé qu'en disant cela, il ne se référait pas seulement aux 10 commandements, mais également aux statuts et aux autres jugements de la loi divine. Il savait de quoi il voulait parler. Il ne s'adressait pas à des méthodistes ou des baptistes, mais à des juifs. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Soyons donc prêts à enseigner la loi de Dieu, sa voix, ses statuts et ses jugements tels qu'amplifiés par Christ et ses apôtres. Oui, cette voix de Dieu doit être réelle à nos yeux et nous devons la considérer comme étant magnifique, car c'est ce qu'elle est. Il est important que nous pratiquions toutes ces choses, frères et sœurs, et que nous pratiquions le gouvernement de Dieu dans l'Église. Ainsi, quelqu'un se verra désigné comme responsable du stationnement. Un autre sera à l'accueil ou exercera les fonctions de placier. Une autre personne s'occupera de la table où l'on mettra la nourriture que les gens apportent pour accompagner la fraternisation après les services. Tout cela accomplit aussi un autre but, nous apprendre à assumer des responsabilités, nous soumettre les uns aux autres, faire confiance à Christ et en sa capacité de gérer toutes ses attributions. Ce faisant, nous apprenons simultanément à fonctionner en équipe. Nous ne serons pas parfaits. C'est pourquoi, laissons-nous motiver par la crainte de Dieu, ayant présent à l'esprit la réalité du royaume dont il sera le roi. Il est notre chef, et nous voulons nous soumettre à lui, sachant qu'il est bien capable de veiller à la bonne marche des choses, et de mettre en place, puis de guider, ceux qu'il établit dans des positions d'autorité. Retournons au livre de l'Apocalypse, où il est question de cette dernière trompette qui retentira à un moment donné. Le son en sera étourdissant, et se répandra à travers les cieux, accompagné d'une lumière éblouissante qui annoncera le retour de Christ avec ses armées d'anges. Les gens sentiront leurs cheveux se dresser sur leur tête. Cela donnera lieu à un spectacle impressionnant, beaucoup plus impressionnant que l'inauguration d'un nouveau président, d'un nouveau pape ou de n'importe qui à travers les âges. Et nous serons présents quand Christ reviendra en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Voyons Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, verset 15. « Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut, dans le ciel, de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Notez qu'ils n'ont pas pour agenda d'organiser une marche sur Washington ou sur Jérusalem. Ils disent plutôt, verset 18, « Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints. » Oui, ils seront irrités à la venue du Seigneur, et cela parce qu'ils auront été totalement séduits. Nous, par contre, nous recevrons alors un corps spirituel et la gloire qui l'accompagnera. Nous ne serons alors plus jamais malades ou fatigués. Nous nous tiendrons alors en présence de Christ, de Pierre, de Paul et bien d'autres, et nous aiderons à gouverner la terre sous leur autorité et leur conseil. David sera présent et établi en tant que roi sur Israël. Abraham sera là, lui aussi, et il sera, conjointement avec d'autres, en charge de toute la terre. Poursuivons. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Oui, Christ, à son retour, écrasera Satan et toute la rébellion qui aura été mise sur pied pour s'opposer à lui. Verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Qu'y avait-il dans l'arche qui se trouvait dans le temple de Dieu? C'était l'arche de l'alliance, contractée avec le peuple de Dieu à l'époque de l'Ancien Testament. Cette arche contenait les deux tablettes de pierre sur lesquelles Dieu avait inscrit les 10 commandements. Pourra-t-on alors oublier tout cela? Pourra-t-on déclarer que la loi est devenue inutile, périmée? Pourquoi alors cette vision spectaculaire de l'arche au retour de Christ à la fin de l'âge? Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Dieu saura s'accaparer l'attention des gens au retour de Christ lorsque sera établi un type de gouvernement totalement différent. Nous serons alors présents à ses côtés, revêtus de gloire, de puissance et de majesté, et conscients du fait que nous nous sommes qualifiés en tant que ses assistants. Nous serons appelés à enseigner le droit chemin à l'humanité. Nous apporterons du soulagement aux affamés, à ceux qui auront souffert dans les camps de concentration, à ceux qui auront été traumatisés et à ceux qui seront malades. Ceux qui auront le cœur brisé seront ranimés. Tout cela sera accompli sous les auspices du gouvernement de Jésus-Christ, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et nous, qui aurons été préparés pour cela, nous aurons le privilège d'assister le grand Dieu de l'univers dans le gouvernement qu'il aura alors établi ici-bas sur la terre. Soyons prêts pour cela.